Écotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de l'impact de nos gestes individuels sur l'environnement. Comme moi, peut-être que vous vous posez la question, mes gestes écologiques ont-ils un sens ? Ont-ils un impact s'ils ne sont pas répliqués par la majorité des personnes dans le monde ? Même si l'écologie a progressé dans les consciences, l'utilité de nos petits gestes du quotidien pour diminuer notre bilan carbone ne fait toujours pas l'unanimité. Ce débat se cristallise dans les comportements. Seuls 20% des individus sont moteurs sur les sujets climatiques, 60% plutôt variables sur la question et 20% carrément réfractaires à toute injonction au changement de vie sur ces questions-là. Et de fait, l'impact carbone moyenne des Français est aujourd'hui bien trop importante. Elle était de 11 tonnes de CO2 par an en 2018, alors qu'il faudrait qu'elle soit de 2 tonnes d'ici 2050. Alors est-ce que les changements peuvent et doivent se faire par l'action individuelle ? Régime végétarien, utilisation de vélo dans les trajets courts, zéro déchet, covoiturage, alimentation locale. Nous sommes nombreux à tenter de faire notre part. Cette question, l'entreprise Carbon 4 se l'est posée dans un rapport en 2019 sur le pouvoir des individus, des entreprises et de l'État face à l'urgence climatique. Et cette question, je la pose aujourd'hui au co-rédacteur de ce rapport, César Dugas, co-responsable du pôle neutralité carbone chez Carbon 4. Bonjour César.
Bonjour.
Est-ce que tu peux déjà te présenter ?
Donc je m'appelle César, j'ai 30 ans. Je travaille chez Carbon 4, donc qui est un cabinet voilà, qui s'intéresse de près aux questions de changement climatique et de transition énergétique. On a une grosse activité de conseil, mais aussi pas mal d'activités de développement méthodologique et de publication auprès du grand public. Et là-bas, je suis responsable du pôle neutralité carbone, et ça m'a amené à un petit peu creuser des sujets, notamment sur la compensation et les histoires de neutralité, d'allégations environnementales un petit peu trompeuses. Mais aussi la question de l'empreinte carbone individuelle et de l'impact des gestes personnels avec ma chère collègue Alexia Soyeux.
Que je salue ici, qui a aussi un super podcast sur les questions environnementales de façon générale. Ma première question, ce sera justement sur ce rapport. Qu'est-ce que tu as découvert ? Et ce que tu as découvert avec ce rapport, est-ce que ça t'a surpris ?
Alors, donc ce rapport, qu'est-ce qu'on a découvert ? Donc c'est un rapport qu'on a... C'est une étude qu'on a menée en 2019, qu'on a publiée en juin de 2019. Et le but du rapport, c'était un petit peu de s'interroger sur l'impact réel de nos gestes individuels quand il s'agissait de réduire notre empreinte carbone personnelle. Et grosso modo, ce qu'on a trouvé, c'est que les gestes individuels, ce qu'on appelle les éco-gestes, hein, ce qu'on fait au quotidien en tant que consommateur pour essayer de limiter notre impact, c'était des gestes qui étaient à la fois vraiment absolument nécessaires, qu'on ne pouvait pas faire sans, mais qu'ils étaient aussi largement insuffisants si on voulait atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dans l'accord de Paris.
Donc tu veux dire que par exemple, quand on nous dit « de toute façon, cet avion, je peux le prendre, il va voler de toute façon », ou alors « bah ça, c'est déjà dans mon assiette, c'est déjà emballé, je vais quand même l'acheter, même s'il y a du plastique dessus », bah en fait, ça, c'est pas un comportement adéquat.
Bah ouais, c'est en fait, il faut en fait ne pas se raconter d'histoire, et ça veut dire qu'il faut vraiment faire ces gestes-là, parce que en fait, on est les seuls à avoir la possibilité de le faire. Enfin, quand tu prends l'avion, c'est toi qui, à la fin, clique sur le bouton pour savoir si oui ou non tu vas partir ou pas. C'est pas uniquement une question de système écrasant qui, de toute façon, possède les clés. C'est aussi, dans une certaine mesure, toi-même qui as les clés du changement. Mais on ne peut pas limiter le problème climatique à ces simples changements individuels. Et c'est ça qu'on a un petit peu trouvé, hein, c'est la conclusion. Est-ce que ça nous a surpris, oui et non? Parce qu'on avait cette intuition-là au départ. Et finalement, la publication a servi à donner un chiffre concret à cette tension qu'on avait un peu toutes et tous dans la tête, qui était est-ce que je sers à quelque chose, oui ou non, dans cette écrasante urgence climatique, quoi.
Et quel est ce chiffre?
Ce chiffre, c'est 25%. En fait, ça dépend ce qu'on regarde. Mais attends, déjà, peut-être que je pourrais expliquer ce que c'est que l'empreinte carbone individuelle.
Oui, je pense que c'est important.
En fait, c'est une mesure de la quantité de CO2, enfin de gaz à effet de serre qu'on émet individuellement sur une année donnée. Donc en gros, tu as des petits calculateurs qui existent. Tu as, je ne sais pas moi, Nos Gestes Climat de l'ADEME, tu as MyCO2 de Carbone 4 et plein d'autres, Micmac d'Avenir Climatique, où en gros, tu réponds à des questions sur tes comportements, donc à la fois de déplacement, de logement, d'alimentation, d'achat de biens et services, etc. Tu moulines et à la fin, ils te donnent un chiffre qui est, je ne sais pas, 2 tonnes, 7 tonnes, 11 tonnes, 30 tonnes de CO2 par an. Et ça, ça vous donne l'impact individuel, ton impact personnel sur le climat, c'est-à-dire toutes les émissions que tu as déclenchées sur ton comportement, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc ça, c'est l'empreinte carbone personnelle. Et en fait, tu l'as dit en intro, mais aujourd'hui, la moyenne en France, c'est qu'on émet 11 tonnes de CO2 par an et par personne. Ça, c'est vraiment une moyenne, hein. C'est un chiffre qui varie énormément en fonction du niveau de revenu. Il y a plein d'études qui montrent que plus on est riche et plus on émet. Hein, il y a une corrélation vraiment...
Corrélation avec la consommation, j'imagine.
Exactement, avec, avec le niveau de consommation, mais aussi avec la nature de ta consommation.
Ah.
En gros, il faudrait regarder les études, mais tu vois intuitivement que plus tu es aisé et plus, bien sûr, tu vas avoir un volume financier que tu peux claquer chaque mois, mais que les objets sur lesquels tu tournes vont être particulièrement intenses en carbone. Typiquement, l'avion, c'est un marqueur social extrêmement fort. C'est seuls les plus aisés, même encore maintenant, à l'heure du low cost, etc., c'est encore les plus aisés qui prennent l'avion. Et c'est un comportement super intensif en carbone. Quand tu fais un aller-retour Paris-New York, tu exploses en l'espace de 7 heures, 8 heures, un cinquième de ton empreinte carbone moyenne annuelle, quoi.
Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, on a l'impression, ok, bah, je vais arrêter de prendre l'avion et puis déjà, je vais baisser de 1/5 mon bilan carbone. Mais en fait, quand on lit ton rapport, c'est pas la mesure principale.
Alors, en fait, l'avion, c'est effectivement un point vraiment particulier parce que l'étude, elle résonne en moyenne. C'est-à-dire, on regarde un Français ou une Française moyenne, et en fait, le Français moyen ne prend pas l'avion, en fait. Quand on regarde les émissions de l'aérien en France, par rapport au nombre d'individus qui vivent en France, c'est peanuts. Donc en fait, quand tu es en vision moyenne, tu te rends compte que le levier aviation, il est pas si fort.
Dire qu'à l'échelle mondiale, le secteur de l'aérien n'émet pas tant que ça.
Il émet quand même un certain nombre de tonnes de CO2 et surtout, il est en croissance quasi exponentielle, quoi.
Ah, d'accord.
Là, je sais pas si vous avez vu, mais mardi, il y a le secteur de l'aviation qui a fait son plan de neutralité carbone, encore ce fameux net zéro. Et en fait, ce qui est très drôle, hein, c'est bon, drôle si ce n'était pas aussi grave, pour faire ce plan, ils prennent en entrée de leurs hypothèses. C'est une hypothèse d'entrée qui n'est pas du tout une variable. Ils considèrent que ça va arriver. Ils vont faire x6 en termes de nombre de consommateurs d'avions entre maintenant et 2050. Donc, ils partent du principe que de toute façon, le secteur de l'aviation va faire x6 en termes de demande. Donc, tu vois qu'il y a quand même un enjeu de maîtrise de ce secteur-là qui est absolument effarant.
Ah ouais.
Et donc, quand tu regardes en France, en moyenne, effectivement, l'aviation, c'est pas énorme. Et ce qui fait que quand tu regardes l'impact moyen du levier « j'arrête de prendre l'avion », c'est assez faible. Mais en revanche, quand tu t'intéresses à un individu, genre qui prend l'avion tous les ans ou même ne serait-ce qu'une fois par an, tu te rends compte que c'est ça le levier principal de réduction de son empreinte. Donc, c'est pour ça que la vision en moyenne, elle est elle est hyper riche, mais elle est hyper trompeuse aussi quand tu la manipules pas bien. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les impacts personnels individuels avec ton propre profil d'émission. Quand tu sais que prendre l'avion, faire un Paris-New York, ça te rajoute directement 2 tonnes, alors que tu vois, en une année, on fait 11 tonnes en moyenne, tu te dis que si tu n'y vas pas, tu réussis à baisser significativement ton empreinte, quoi.
Oui, que tu es censé faire que 2 tonnes d'ici 2050. Donc en fait, en 2050, on est censé plus prendre de l'avion ou avoir des avions propres, ce qui n'est pas à l'heure... Pour demain, en tout cas.
Alors, il y a une étude qui est super intéressante qui est sortie il y a 2 ans, un peu avant le faire sa part. C'est une étude qui a été faite par le cabinet BEL Evolution, et qui essaye d'esquisser à quoi ressemble un monde qui ne se réchauffe pas à plus de 1,5 degré en 2050. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils prennent tous les secteurs et ils se disent bah, concrètement, pour l'avion, enfin pour le déplacement, il y aura pour la courte distance majoritairement que du vélo ou du transport en commun et un petit peu de voiture bas carbone. Pour la longue distance, il va y avoir un gros sujet sur l'aviation parce que trop d'aériens, c'est incompatible avec un monde 1,5 degré. Et donc, c'est intéressant de voir que en moyenne, en France aujourd'hui, c'est 11 tonnes de CO2 par an et par personne. Et que la trajectoire pour respecter l'accord de Paris, faut faire moins 80% de ce 11 tonnes. Il faut passer de 11 à 2 en l'espace de 30 ans. Quoi. Donc, c'est un peu vertigineux.
Donc, c'est changer radicalement de mode de vie.
Exactement. C'est changer radicalement son mode de vie, d'où la nécessité d'avoir des éco-gestes qui soient un tant soit peu on va dire, sérieux. Quoi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire pipi sous la douche et de s'arrêter là, ou de planter un potager quand on a la chance d'avoir un jardin ou une terrasse. Mais c'est vraiment déjà un, de se tourner vers des gestes qui vont avoir un impact vraiment significatif, genre typiquement arrêter l'avion ou moins le prendre jusqu'à ne plus prendre du tout d'ici 30 ans, d'un régime végétarien et j'en passe. Donc ça, c'est un premier champ d'action important. Mais le deuxième champ d'action important, et c'est ce qui est montré par la publication Faire sa part, c'est que même en allant chercher les leviers les plus importants à son échelle individuelle, les plus significatifs, ça ne suffit pas à réduire de 80% son empreinte. Pourquoi ? Parce qu'on est, on est verrouillé par toute une structure qui nous entoure, une structure qu'on appelle socio-technique, qui est faite d'usages sociaux et d'infrastructures techniques qui sont hyper dépendants des énergies carbonées. Donc en fait, tu peux faire le maximum à ton échelle et c'est parfait, tu ne pourras pas tout seul arriver à 2 tonnes par an et par personne.
Tu peux nous donner un exemple de ces structures socio-techniques ?
Bah, par exemple, pour le déplacement, tu te dis, bon, ok, là, je me déterre, je vais arrêter l'avion et je vais essayer de réduire au maximum mon empreinte de déplacement. Bah, par exemple, tu vas prendre le plus possible des transports en commun. Donc, ok, très bien, tu ne prends plus ta voiture, tu prends le bus. Mais quand tu rentres dans le bus, tu n'as pas du tout la main sur le mode de transport, le carburant qui est utilisé par le bus. Est-ce que c'est du diesel ? Est-ce que c'est du biocarburant ? Est-ce que c'est l'électrique ? Est-ce que c'est une traction humaine avec des gens qui pédalent ? Enfin, tu n'as pas la main là-dessus. Pareil pour le chauffage. Tu te dis, ok, super, je vais moins me chauffer l'hiver. Donc, c'est essentiel, évidemment, de moins se chauffer l'hiver. Il faut essayer d'avoir des températures de l'ordre de 18-19 degrés, quoi, quitte à mettre un pull. Mais si tu restes sur une chaudière à gaz, bah, tu n'as pas la main sur est-ce que le gaz qui arrive, il est fossile, il vient de la mer du Nord, d'un gisement dégueu, ou si c'est du biométhane qui vient des vaches, de la méthanisation des effluents bovins de ta région. Quoi. Donc il y a plein d'exemples comme ça où en fait on se rend compte qu'on évolue dans un monde qui est tissé de plein de fils invisibles qu'on ne voit plus et qui d'ailleurs sont souvent loin de nos yeux et qui contraignent au premier ordre l'impact de notre empreinte carbone personnelle.
Alors, tu nous as parlé dans les impacts importants à l'échelle individuelle de devenir végétarien. Ça m'intéresse évidemment puisqu'on est, sur le grill décotable et on parle ici beaucoup d'alimentation. Est-ce que ça... Alors, moi, j'ai un peu la réponse parce que j'ai lu ton rapport, mais concrètement, est-ce que ça a du sens de changer son alimentation ? Est-ce que c'est significatif dans l'impact que tu vas réduire ? Et quels sont les premiers gestes à faire pour les personnes qui veulent faire leur part au niveau alimentation ?
Ok, alors moi j'ai la réponse à tes deux premières questions, à savoir que ça a du sens, oui, et c'est significatif, oui, et c'est même le levier en moyenne qui est le plus significatif. Donc je vais commencer par répondre à ces deux trucs-là.
Plus significatif que l'avion du coup ?
Bah alors en moyenne, oui.
Mais pas à l'échelle individuelle.
Exactement. D'accord. Si toi tu prends l'avion dans ta vie, c'est l'avion qui est le plus gros levier. Mais en moyenne en France, c'est l'action de devenir végétarien, ou d'abord peut-être flexitarien, demi-tarien, voilà. Pour tendre vers un végétarisme absolu et total en 2050, qui est le levier le plus important. Pour ta troisième question, qui est quelles sont les premières actions à faire, là, je pense que je ne suis pas compétent en la matière.
Bah si, c'est devenir végétarien, tu
me dis. Ah bah oui, du coup, oui. Mais après, les premiers pas pour le devenir, là, il faudrait avoir une conversation.
Mais d'ailleurs, ça m'a étonné parce que dans votre rapport, vous avez comparé devenir végétarien à manger local, mais vous n'avez pas regardé manger bio. Mmh. Et nous, moi, ce que j'ai lu dans les études, c'est que l'impact aujourd'hui carbone le plus important de notre agriculture, c'est les intrants, donc les pesticides, les engrais, et ce n'est pas tant le transport, ce n'est pas tant la distance de nos aliments.
C'est ça qui est hyper intéressant avec l'alimentation, c'est qu'en fait, quand tu parles de ce que tu manges en termes d'émissions de gaz à effet de serre, tu vas toucher à plein de secteurs différents. Pourquoi est-ce que devenir végétarien, c'est le levier le plus significatif à son échelle personnelle? C'est qu'en fait, quand tu arrêtes de manger de la viande, tu vas jouer sur deux grands secteurs. Le premier, c'est le secteur agricole lui-même, parce que ce qui va être très important en termes de contribution au changement climatique quand tu manges de la viande, c'est les ruminants, enfin le bœuf par exemple, qui va émettre du méthane, qui est un gaz super puissant, qui est 30 fois plus puissant que le CO2, dans l'atmosphère. Via sa rumination, il éructe du méthane. Donc ça, c'est un premier truc, c'est en arrêtant la viande, tu vas cesser de solliciter cette filière-là, et donc tu vas permettre de moins émettre. Et le deuxième secteur hyper important, c'est les intrants des animaux eux-mêmes, c'est-à-dire en gros l'alimentation de ces animaux. Et on sait que, notamment dans l'agriculture intensive bovine, tu as beaucoup d'intrants qui sont issus de cultures de soja gigantesques au Brésil, qui elles-mêmes sont issues de déforestation massive de l'Amazonie. Et donc en fait, si tu décides de ne plus manger de viande, en tout cas de viande qui a cette origine-là, pour les intrants d'alimentation animale, tu vas permettre de ne plus déforester. Il faut quand même savoir que la déforestation, c'est l'équivalent de 10% des émissions mondiales, ce qui est gigantesque. Et le poste agriculture plus déforestation, c'est peut-être un quart, enfin à peu près un quart, 20%
un de quart nos ou émissions, un tiers en fonction de ce qu'on regarde.
Des émissions mondiales, exactement.
C'est énorme.
Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, dans la publi, on regarde des leviers. Alors, on n'a pas forcément essayé d'être exhaustif dans les leviers. On a ciblé pour l'alimentation, devenir végétarien et manger local. Ces deux leviers-là, ça joue sur la nature de ce que tu manges et sur la provenance de ce que tu manges. La nature de ce que tu manges, on se rend compte que c'est ça qui détermine au premier ordre l'impact carbone de ce que tu manges. Et le transport, donc le manger local ou pas, c'est important aussi, mais plus limité.
Plus faible.
Et du coup, le bio ou manger tu vois, sans intrants chimiques, etc., probablement que ça a un impact significatif. On ne l'a pas regardé.
Vous l'avez pas regardé parce que voilà, il fallait faire des choix ou parce que vous n'aviez pas la donnée?
Je pense qu'on peut avoir la donnée. On a dû faire des choix parce que c'était plus simple de modéliser un arrêt de la viande ou une localisation plus proche en fait de son alimentation pour faire les calculs. Mais manger bio, alors faudrait vraiment regarder. Ce serait intéressant de regarder l'impact du bio dans son alimentation.
Et alors tout à l'heure, tu nous as dit devenir végétarien totalement en 2050. Est-ce que ça signifie que pour atteindre les 2 tonnes de CO2 par personne, on va devoir devenir végétarien?
Alors, pas vraiment. Typiquement, par exemple, en France, donc, tu vois, on a un plan pour rester sous les 1,5 degré, bien en dessous des 2 degrés, voire sous les 1,5 degré à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est l'accord de Paris. Et en France, on a un peu repris à notre compte cet objectif-là et on l'a traduit en un plan national. Ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Et cette stratégie nationale bas carbone, elle demande de réduire énormément nos émissions nationales et en parallèle de doubler nos puits de carbone en France. Les puits de carbone, c'est les forêts, les sols qui captent du carbone. Et quand tu regardes le secteur agricole, en fait, dans les réductions, et que tu traduis ça à l'échelle d'un Français en particulier, je crois que le chiffre, c'est plutôt tu dois diviser par 2 la consommation de viande en moyenne.
D'accord.
Et je pense qu'il doit y avoir aussi des subtilités sur est-ce que c'est de la viande rouge ou de la viande blanche, etc. Mais en fait, la SNBC, donc c'est le petit nom de la stratégie nationale bas carbone, prévoit quand même un petit peu de résiduel en termes de consommation de viande. L'idée d'une France neutre en carbone, c'est pas forcément d'être tout le temps, enfin d'être chacun et chacune en 2050 végétarien. Mais c'est en moyenne de diviser par 2. Donc pour faire une division par 2 en moyenne, y en a qui voudront être 100% végétariens. D'autres qui vont vouloir peut-être modérer leur consommation, mais au global, il faut juste entre guillemets, diviser par 2 cette consommation.
Et alors, qu'est-ce que tu réponds à l'argument qui est en fait, ça sert à rien que moi, je fasse des choses à l'échelle individuelle à partir du moment où, dans le monde, il y a des personnes qui continuent à consommer massivement, qui continuent à avoir un impact carbone massivement, comme on est sur un problème planétaire. Que la France soit neutre en carbone, en fait, en réalité, on s'en fout un peu si la Chine et les États-Unis explosent le bilan carbone derrière.
C'est le dilemme du prisonnier, quoi. On a jamais envie d'être les premiers à agir, parce que si on est les premiers à agir, on est à poil, quoi, et les autres tirent profit de notre déséquilibre pour passer devant. Mais je pense que cet argument, il a déjà été attaqué de multiples reprises. Il y a tout un argumentaire qui est disponible pour débunker ce genre d'argument. Je pense que typiquement, Bonpote, qui fait un bon travail de vulgarisation sur le changement climatique, pas mal actif sur LinkedIn, etc., il a, je crois, commis un petit article là-dessus. Et je pense que parmi les arguments qu'on peut asséner à l'encontre de ce, cette excuse pour l'inaction, c'est par exemple de dire bah, peut-être qu'on fait 1% des émissions mondiales en France, mais on a une responsabilité historique. Il ne faut pas oublier que le changement climatique, ce n'est pas une affaire de flux, c'est une affaire de stock de CO2. C'est l'image, j'adore cette image, hein, c'est l'image de la baignoire. L'atmosphère, c'est une baignoire, okay, il y a un niveau d'eau, c'est le CO2. Et en fait, savoir si tu dépasses d'un degré 5, 2 degrés, etc., c'est sur le niveau d'eau dans la baignoire, le niveau total qui est accumulé dans la baignoire. Et tes émissions mondiales, c'est le robinet qui coule plus ou moins fort. Donc en fait, on s'en fout de savoir si la France aujourd'hui a un gros robinet ou un petit robinet. L'intérêt, c'est de savoir comment, historiquement, elle a contribué à augmenter le niveau de la baignoire. Et la réponse à cette question, c'est oui, significativement, on a contribué à augmenter le niveau de la baignoire. Donc ça, c'est un premier argument. Et puis le deuxième argument, c'est un argument simplement de dire on a la responsabilité aussi morale, si on peut invoquer la morale ou l'éthique là-dedans, qui est on est une économie mature, on a fait notre transition, maintenant c'est à nous de montrer la voie dans des technologies décarbonées, dans des éléments de sobriété carbone heureuse, etc. Donc en fait, c'est vraiment à nous, nous les Européens en général et l'Occident en général, de montrer la voie.
Parce qu'on est les premiers responsables de ce stock.
Parce que historiquement, alors je crois que c'est les États-Unis qui sont les tout premiers responsables d'assez loin, je crois, sur l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère historique. Mais les 27, enfin l'Union européenne est très, 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 très bien placée aussi dans ce palmarès.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de surresponsabilisation des individus ? Moi, ce qui me gêne toujours dans le faire sa part, c'est que quand j'entends des politiques qui disent bah, « Attendez, c'est avant tout au consommateur d'agir, il a le choix, il peut manger bio, il peut manger végétarien, donc laissons le choix.
» Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc la publication qu'on a publiée là, il y a 2 ans, c'est « Faire sa part, point d'interrogation ». Donc c'est hyper important parce que on a justement utilisé le wording du colibri qui était bien implanté hein, depuis plusieurs années pour un petit peu questionner la pertinence ou en tout cas la faisabilité d'être en ligne avec l'enjeu planétaire quand on faisait uniquement soi-même ce qu'il fallait faire. Et en fait, pour être tout à fait transparent, l'une des raisons principales qui nous ont amené à faire cette étude, c'était parce qu'on était un petit peu étonnés, pour le dire joliment, de cette fameuse tendance à surresponsabiliser les individus. On s'est rendu compte que c'était probablement de l'intérêt de certains pouvoirs, que ce soit des pouvoirs politiques ou économiques, que de surresponsabiliser l'individu, parce que ça racontait une histoire extrêmement indolore pour eux, qui était de dire on va translater uniquement sur l'individu la nécessité d'agir, et en plus ça permet de raconter une belle histoire, qui est une histoire un petit peu de prise de conscience personnelle et de combat et de vraiment récit initiatique presque. Et ça a plusieurs effets un peu délétères. Le premier, c'est que déjà, c'est faux, comme on peut le voir, parce qu'un individu seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas tout pour réduire son empreinte au niveau requis. Et puis aussi que finalement, c'est une manière de dépolitiser énormément la notion de changement climatique. Je sais plus si c'est Corinne Morel-Darleux ou quelqu'un d'autre qui dit que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. En fait, c'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire quand on surresponsabilise les individus et que le discours climatique unique se consisterait à dire consommer mieux, bah ça équivaut en fait à dépolitiser la notion de climat, d'écologie et de ne plus faire de la question du choix politique un sujet. Et du coup, ça, c'est vraiment hyper dangereux. Grégoire Chamaillou, dans La société ingouvernable, qui est un essai extraordinaire qui est sorti en 2018, que je recommande chaudement, le montre très bien sur le côté responsabiliser l'individu pour mieux castrer, en fait, le politique. C'est domestiquer l'action climat pour mieux l'anesthésier, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a étonnés et qu'on a voulu, en fait, interroger, en fait, dans cette publi-là. Et ce qu'on a vu, c'est que l'action individuelle était insuffisante et donc la surresponsabilisation n'était pas du côté de la rationalité. Pour être rationnel, il faut être radical, en fait. Et c'est ce que montre l'étude. C'est-à-dire que si on veut être rationnel, si on veut être en ligne avec la science, réussir à descendre notre niveau d'émission au niveau requis, il faut prendre le sujet à la racine. Et la racine, ce n'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc. C'est nos structures industrielles, logistiques, nos choix politiques contrats commerciaux, de programmes de développement, etc.
Oui, donc c'est faire une révolution écologique, changer radicalement notre prisme de vue, etc. Vous, est-ce que dans ce rapport, ou de manière générale, justement, vous faites des propositions pour cette radicalité politique.
Bah en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire il faut essayer d'embrasser une rationalité qui soit multiforme, et en fait la radicalité doit être à la fois individuelle et collective. Et c'est pour ça que la grande conclusion de notre rapport, c'est de dire qu'on ne devrait plus opposer l'individuel et le collectif, puisque c'est finalement une fausse opposition qui nous aveugle. C'est plus... on va soit choisir d'être des sortes de modèles à l'échelle individuelle et un petit peu être heureux, caché dans son jardin, etc., et ne pas du tout se soucier du système, parce que c'est réputé écrasant, etc., ou choisir entre ça et en fait une lutte sans merci contre le système et finalement un désengagement total sur ses actions individuelles au prétexte que ça ne servirait à rien. Cette dichotomie-là, elle est construite. Et elle n'existait pas il y a encore 50 ans. Dans les années 60, les mouvements écologistes et féministes disaient le personnel est politique. Donc en fait, le particulier, l'action individuelle, était vue comme l'une des faces d'une médaille globale qui était l'action politique en général, et qui comportait à la fois un changement, une transformation individuelle et un combat collectif. On peut faire l'économie de ni l'un ni l'autre.
Aujourd'hui, c'est plus d'actualité parce que, alors moi, je dis toujours que manger est politique parce que quand même, on peut toujours faire le lien entre un système et ce que tu mets dans ton assiette, et changer le système, ça passe aussi économiquement par mettre l'argent au bon endroit.
Exactement. Ça, c'est heureusement que ce discours n'a pas disparu, mais c'est finalement le discours dans lequel a tenté de nous enfermer un certain nombre de discours qui justement poussaient pour une surresponsabilisation des individus ou à l'inverse des discours qui étaient un petit peu de l'aquabonisme individuel pour simplement agir à des niveaux plus étatiques ou économiques, quoi. Et finalement, c'est ce truc-là qu'il faut réussir à réconcilier, quoi. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et dans la publication, on essaye d'apporter des pistes finalement pour un peu embrasser cette action collective. Donc pareil, nous, on prétend absolument pas faire la cartographie exhaustive de tout ce qu'il faut faire à l'échelle collective et politique, mais on peut en fait avoir des petites intuitions déjà. Typiquement, on prend l'exemple d'un salarié ou d'une salariée. Elle peut ou il peut changer son mode de vie pour moins consommer, mais si cette personne bosse dans une grande banque qui finance des énergies fossiles à tour de bras, on peut se demander si l'engagement est cohérent et complet, quoi. Donc par exemple, une première chose à faire quand on est salarié d'une structure et qu'on veut agir, c'est de demander à son employeur de rendre des comptes sur la stratégie climat de l'entreprise. Donc c'est bien de changer les touillettes les touillettes en plastique dans la cafétéria, mais il y a plus important, est-ce qu'on a un plan de décarbonation ? Est-ce que notre modèle d'affaires, c'est-à-dire ce qu'on propose à la société, est compatible avec un monde neutre en carbone ou pas ? Ça peut être au niveau d'un prof ou d'une prof qui pour sensibiliser les élèves, ça peut être au niveau local, associatif, ça peut être en faisant des podcasts, ça peut être vraiment énormément de choses qui permettent d'aller titiller et faire craquer cette structure extrêmement intense et gourmande en carbone qui nous entoure, de manière à ce que dans 30 ans, on ait des écosystèmes qui soient complètement décarbonés, quoi.
Mais tu y crois, toi, à ça sans effondrement du système ?
Ah bien sûr !
Tu crois qu'on peut changer le système sans qu'il s'effondre ?
Ah alors, moi je crois en la capacité d'atteindre des niveaux d'émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre, qui soient non corrélés à un effondrement. Ça c'est sûr, enfin je veux dire, en tout cas théoriquement c'est faisable, hein. On sait... Enfin, il n'y a pas de miracle. On sait comment décarboner le transport, le chauffage, l'alimentation, la production d'énergie. On sait comment réduire significativement les émissions de l'industrie, de l'agriculture, etc. On sait comment reforester, on sait comment lutter contre la déforestation. On a toutes les solutions en main. Toute la question, c'est de savoir si on aura le courage politique de le faire. Et pour le coup, ce n'est qu'une question de courage politique. Les solutions sont là. Il n'y a pas à aller chercher des solutions aberrantes de siphonnage de CO2 de l'atmosphère, en tout cas dans des quantités raisonnables, pour faire la transition. Et après, pour la question de l'effondrement, toute la question, c'est de savoir quel est le chemin que tu épouses, que tu suis pour arriver à ce point d'arriver en 2050. Il y a le chemin désirable de transition juste, de décarbonation qui est basé sur une coopération internationale avec des choix politiques forts, etc., et en même temps une prise de conscience individuelle massive. Et puis, il y a la voie hyper triste qui va être des rivalités locales, des pays qui vont se replier sur eux-mêmes, voire des scénarios noirs comme des effondrements locaux ou globaux, quoi. Donc ça, en fait, bien malin sera celui qui, ou celle qui saura dans quelle voie on est en train de s'engager. quand tu... Là, il y a un truc un peu flippant, par contre, c'est quand on regarde le rapport Meadows, donc qui est le rapport Les Limites à la Croissance, qui est le rapport du Club de Rome, qui a fait vraiment date dans les années 70, 72, si je ne dis pas de bêtises, sur les chemins qu'on est en train de prendre et qui seront compatibles avec les limites planétaires. Ils ont fait plein de scénarios. Ils sont partis des années 70, ils se sont dit, bon, bah, y a un scénario qui va faire ça, un autre qui va faire ça en termes de réduction d'émissions et de consommation des ressources. Et on se rend compte que quand on fait le... Quand on suit la courbe entre 1970 et maintenant, on est en train de suivre le pire scénario. Donc, il y a des trucs qui, honnêtement, sont un peu inquiétants. Mais ce que nous dit le GIEC dans son rapport qui est sorti il y a deux mois, en août, le AR6, le sixième rapport global, là, Assessment Report, c'est que c'est hyper chaud. La situation est vraiment critique, mais on a encore les marges de manœuvre pour y arriver.
Et pire que ce qu'on pensait quand même. Enfin, ça s'accélère en tout cas par rapport aux dernières prévisions. C'est-à-dire qu'en effet, on est dans les pires scénarios envisagés par les scientifiques.
Ouais, on est là joliment en train de suivre une trajectoire de réchauffement qui va aller entre 2,5 et 4,5 degrés en 2050.
Parce que tu dis, il ne faut pas des solutions complètement, je ne sais plus le mot que tu as utilisé, notamment d'aspirer.
Bon, on peut dire ubuesque.
Voilà, ubuesque d'aspirer le CO2. Mais je fais la comparaison avec des solutions qu'on pourrait tout aussi qualifier d'ubuesque, qui, mais en même temps, paraissent peut-être la seule voie à l'heure actuelle de remise en cause des libertés individuelles, notamment en termes justement de choix de prendre l'avion, de ce qu'on fait au quotidien, d'arrêter de mettre du béton absolument partout, etc., etc. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que tu crois à une société décarbonée qui va encore permettre une certaine liberté individuelle?
Alors là, c'est une question vraiment franchement vertigineuse et qui... franchement, je n'ai pas de réponse. Moi, à ce stade, j'ai que des interrogations. Effectivement, là, tu mets le doigt sur un truc hyper important qui est de savoir comment concilier une action collective ambitieuse en termes de changement climatique et la préservation de la liberté individuelle. Je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est à peu près le thème du bouquin « Abondance et liberté » de Pierre Charbonnier qui essaye de voir quels sont les liens entre abondance et liberté, justement, tout est dans le titre. et en gros, les questions que ça pose, c'est déjà, un, qu'est-ce que c'est que la liberté individuelle? Évidemment, il y a des parallèles extrêmement forts avec avec les questions de passe sanitaire et de vaccination aujourd'hui. C'est, est-ce que la liberté individuelle, c'est juste ce qui me permet de faire ce que je veux, dans les limites de rien, en fait, c'est juste ce que je fais, ce que je veux? Est-ce que c'est je fais ce que je veux dans la limite de ne pas nuire à mon prochain? Est-ce que c'est autre chose? Et en tout cas, ça pose des questions vertigineuses sur déjà ce qu'on entend par liberté individuelle et surtout si on partage tous ensemble la même définition, ce qui n'est a priori pas le cas. Et puis ensuite, sur la capacité collective de se contraindre, parce que c'est vraiment ça hein, quand même, on est en train quand même de parler, faut pas raconter d'histoire non plus aux gens, il y aura forcément des changements radicaux de mode de vie qui vont être vus par certains et certaines comme des contraintes. D'autres vont voir ça comme des mieux-être, des libérations, des augmentations de la prospérité, du niveau de vie, du confort de vie, mais d'autres qui vont voir ça comme de pures et simples privations. Je prends l'exemple, un exemple très simple, les SUV par exemple. On sait que la vente de ces gros véhicules individuels, c'est le deuxième plus gros contributeur, avant le Covid, je crois que c'était le chiffre, le deuxième plus grand contributeur à l'augmentation des émissions. Donc en gros, avant le Covid, on augmentait encore nos émissions de gaz à effet de serre mondiales. Le premier contributeur de la hausse, c'est les centrales à charbon en Chine qui continuent à construire des centrales. Le deuxième, c'est les SUV. Pour l'écrasante majorité des Français, je pense que c'est absolument... On s'en fout en fait, de savoir si les SUV sont ou non interdits. C'est même plutôt pour une majorité, je pense, des Français, quelque chose qui va être plutôt vu d'un bon oeil parce que c'est des trucs qui prennent une place gigantesque dans l'espace public. Ça tue des gens, des piétons, des vélos, etc. Mais par contre, pour les tenants d'une certaine vision de la liberté individuelle et aussi pour les propriétaires de ces SUV qui, justement, voient cet objet comme un signe extérieur de puissance, de sécurité, etc., ça va être compliqué. Et donc là, il y aura une lutte, une opposition. Et honnêtement, là, je ne fais que donner des pistes de réflexion, mais je n'ai aucune réponse.
Oui, je vois. Tu nous parles quand même depuis tout à l'heure, forcément, sur ces questions-là, du rôle de l'État sur ces enjeux. Alors, il se trouve qu'avant d'enregistrer ce podcast, tu nous as dit que tu avais participé à l'affaire du siècle, notamment, et du côté des associations et pas du côté de l'État. Du coup, quel est le rôle pour toi de l'État sur ces questions de choix individuels ?
Bon, en tout cas, le rôle de l'État, il est multiple. L'État, il a un rôle à la fois de législateur pour inciter, contraindre, taxer, mettre des quotas, etc. C'est-à-dire pour organiser, en fait, de manière soit coercitive ou soit incitative, des comportements individuels. Donc ça, c'est un premier rôle, hein, c'est le législatif. Il a aussi un rôle d'investisseur. Parce que l'État, il est garant d'un certain nombre d'investissements, de financements, et on sait que c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est-à-dire que si on veut espérer changer notre tissu sociotechnique, c'est-à-dire remplacer les centrales à gaz ou à charbon par des trucs bas carbone ou rénover les bâtiments, etc., il va falloir passer par des investissements massifs, privés et publics. L'État, il a aussi un rôle de négociateur auprès des pays avec lesquels on fait du commerce. Typiquement, on ne peut pas à la fois, en même temps, dire qu'on est un pays exemplaire sur le climat et en même temps signer des traités avec l'Amérique latine ou avec les États-Unis ou le Canada, qui vont organiser une augmentation exponentielle des flux de transport et de marchandises entre les deux géographies et augmenter la part de l'agriculture intensive, typiquement. Donc, en fait, l'État, il a un rôle multiple et un rôle investisseur, financeur, législateur. Négociateur, je sais pas trop si c'est ça ou pas. Mais en tout cas, l'État, notamment sur la question individuelle...
Oui, c'est diplomatique, hein. En tout cas.
Comment ?
Diplomatique, en tout cas.
Oui, diplomatique. Mais en tout cas, l'État, sur la notion d'empreinte individuelle, je le vois pas ne pas avoir de rôle.
Et mon autre question, du coup, c'est est-ce qu'il a pas un rôle, notamment, pour donner accès aux personnes à ces choix individuels ? Parce qu'on parle quand même de choix aujourd'hui de riches, qui est je prends l'avion ou je prends pas l'avion. Bah, il faut que je puisse me permettre de me poser cette question. Je mange bio, je mange pas bio. Je mange végétarien, je mange pas végétarien. La plupart des gens ne se posent pas ces questions aujourd'hui.
Exactement. Alors, du coup, ça, c'est absolument fondamental. Parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est vraiment l'éléphant dans la pièce. C'est la capacité des Françaises et des Français à réellement réduire leur empreinte. Alors, on a vu qu'il y avait toute une partie de notre empreinte carbone qui était à notre main et une autre qui était plutôt contrainte par un système. Mais finalement, quand on regarde le quotidien de quelqu'un qui vit en banlieue, qui a un taf hyper loin et qui est obligé, dans lequel il est obligé d'aller en voiture, et aussi un supermarché Leclerc qui est à 10 km et dans lequel il va aussi devoir prendre la voiture, ces profils-là, c'est des profils qui vont avoir encore moins de marge de manœuvre. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle nous des gestes individuels, bah, eux, en fait, ça n'en est pas du tout. Ils ne peuvent pas troquer leur voiture pour un vélo parce qu'ils ne vont pas, avec leurs trois enfants, faire le truc. Donc, il y a en fait, toute une transition à organiser. Et c'est notamment ce qu'on appelle la transition juste. C'est comment faire en sorte que l'État puisse garantir une transition heureuse, juste, à tout un pan de la population qui n'est pas la population bobo parisienne, qui a un milliard de leviers de manœuvre pour réduire son empreinte et qui sont plutôt, prisonniers d'un système qui a été créé pour la voiture, notamment, et pour les énergies fossiles, il y a 50 ans.
Oui, on ne peut pas s'empêcher de penser au mouvement des Gilets jaunes, quand
par
tu
exemple.
Dis ça.
Exactement. Donc, tu vois, le mouvement des Gilets jaunes, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'augmentation de la taxe carbone, et ce qui est plutôt compliqué à digérer, un, pour des gens qui ont besoin de la voiture et ce qui leur a été imposé pour vivre, et deux, de, en même temps, supprimer l'ISF. C'est-à-dire que ça a été ça a été hyper délétère, en fait, en termes d'image, de supprimer l'un pour ajouter l'autre. Je prends un exemple concret, par exemple. Donc, on parle pas mal de mobilité, mais on peut aussi parler de logement. On sait que pour réduire l'impact carbone du secteur du logement, il faut réussir à mieux isoler les bâtiments. Pour mieux isoler les bâtiments, on a beaucoup de maisons individuelles. Il y a des appartements loués, ça c'est aux propriétaires de le faire, mais il y a beaucoup de maisons individuelles et des maisons individuelles qui sont... dont les occupants sont pas forcément hyper riches, voire même parfois hyper pauvres, et les plus pauvres sont justement ceux qui vivent dans des passoires thermiques qui ont le plus besoin d'être isolés. Et pour cette population-là, il faut évidemment donner les instruments incitatifs financiers pour leur permettre de faire des rénovations thermiques à bas coût, ou en tout cas à des coûts transparents pour eux. Donc à la fois de la rénovation et des changements de vecteur énergétique de chauffage pour aller sur des pompes à chaleur plutôt que sur des chaudières à fioul ou à charbon, comme il y en a encore en France.
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, l'État, en fait, s'est doté d'une loi qui s'appelle la loi climat et résilience, qui tente de répondre à cette urgence-là et qui y échoue dans les plus grandes largeurs. Et c'est justement ce qu'on a montré avec le rapport de l'affaire du siècle. Donc, effectivement, ouais, avec un collègue qui s'appelle Alexandre Joly et que je salue, on a, avec deux autres collègues d'ailleurs, on a pas mal réfléchi avec l'affaire du siècle, les quatre ONG, sur est-ce qu'on peut prouver en fait que l'État, compte tenu des mesures actuelles, y compris la loi climat, ne parviendra pas à atteindre son objectif de réduction d'émissions en 2030. Et on a en fait élaboré une sorte de méthodologie pour montrer qu'effectivement, ça allait être extrêmement difficile, puisqu'en fait, le propre de la loi climat, ça a été en fait de cocher toutes les cases thématiques, c'est-à-dire de dire je fais un truc sur le logement, je fais un truc sur le transport, je fais un truc sur l'agriculture, l'alimentation, etc. Mais à chaque fois, de faire le, même pas le tiers ou le dixième de ce qui est censé être fait, soit en termes d'ambition législative, soit en termes d'investissement ou de financement.
Et puis aucune mesure systémique.
Bah, il y avait en fait des mesures. En fait, l'État, son rôle, c'est de prendre des mesures systémiques, quoi, enfin en partie. Mais typiquement, si je prends un exemple, la mesure sur la rénovation thermique des bâtiments, ça a été de proposer une prime qui s'appelle MaPrimeRénov pour permettre aux ménages les plus modestes de se payer une rénovation. Mais quand on regarde, c'est un niveau de financement qui est 4 fois plus faible que ce qui devrait être fait normalement pour atteindre les objectifs. Donc c'est typiquement le think tank I4C qui a montré que si on voulait vraiment faire le taf sur les rénovations thermiques, il faudrait faire x4 en termes d'investissement de l'État, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui.
Ok, passionnant. Est-ce que tu as vu des évolutions, enfin, est-ce que vous avez vu chez Carbon 4, en tout cas, des évolutions à la suite du Covid sur les changements individuels?
Alors, déjà, on peut parler du... Le Covid, c'est à plein d'égards un truc assez incroyable en termes de constatation sur le changement climatique. Alors, je m'explique, ma phrase était complètement obscure. qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier confinement? On a arrêté de se déplacer, on a arrêté... On a un peu consommé quand même en ligne, etc. Mais on a arrêté de se déplacer, d'aller au boulot, de chauffer du coup les espaces de travail, en tout cas pour le secteur tertiaire dans sa majorité. Donc on a, à plusieurs égards, on a un peu arrêté de vivre. Au total, quand on regarde l'effet sur les émissions que ça a eu en France, le total des émissions, il a fait moins 7%.
Et c'est hyper décevant. J'étais hyper déçue par ça.
Très peu, bah oui. En fait. C'est moins 7% sur l'année. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas confiné toute l'année 2020, hein, faut quand même le reconnaître. Et en fait, en ponctuel, donc là, je parle en moyenne, hein, le moins de 7% c'est en moyenne, et en ponctuel, c'est-à-dire au pire du confinement, on a fait moins 30% par rapport à l'année d'avant. Et ce qui est un peu bizarre, parce qu'on se dit, mais attends, moins 30% alors qu'on a arrêté de vivre. Et en fait, c'est là que ça illustre parfaitement cette notion de, en grande partie, le problème climatique qui se situe loin de nos yeux et de nos vies personnelles. Parce que finalement, quand on est resté chez soi, il y a eu plein de choses qu'on continue à tourner. Les usines, les productions d'électricité, le cheptel bovin, il a continué à ruminer dans les champs. On a continué à déforester. Continué à se chauffer chez soi, parce qu'on était confinés, mais du coup, il fallait bien se chauffer.
Les avions continuaient de voler, même à vide.
Certains avions continuaient de voler, oui, pour ne pas perdre les slots qui leur étaient réservés. Et en fait, il y avait tout un système, toute une structure qui continuait de tourner. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça donne un ordre de grandeur assez pertinent finalement de l'impact individuel. Parce que en tant qu'individu, on arrête de vivre et tac, on fait moins 30% ponctuellement. Ce qui est plutôt cohérent avec le moins 25% qu'on a trouvé d'en faire sa part. Donc, j'ai peut-être pas dit, mais d'en faire sa part, on a regardé quel était l'impact quand on faisait l'ensemble des gestes individuels et on trouve qu'en moyenne, encore une fois, en moyenne, c'est hyper important de le dire, on réduit de 25% son empreinte. Si en plus, on va faire des actions un peu avec plus fort impact, donc typiquement investir dans la rénovation thermique, acheter un véhicule électrique ou bas carbone, on peut faire moins 45. Ce résultat, il est quand même assez dingue parce qu'on se dit du jour au lendemain, on peut faire moins 25%. Si l'État nous donne de l'argent pour le faire, on peut faire moins 45, ce qui quand même est significatif, surtout qu'on parle de la question la plus vertigineuse et la plus existentielle de l'humanité aujourd'hui, quoi, qui est le changement climatique. Donc voilà, et pourquoi je disais ça, moins 25
Par rapport au fait que ça illustre qu'individuellement, ouais, on est ça, limité.
Le Covid. Donc le Covid, on a vécu comme des ermites pendant... certains ont vécu comme des ermites. Faut pas oublier qu'il y a quand même plein de gens qui ont continué à bosser, qui étaient en première ligne et qui étaient extrêmement mal payés. Mais bon, c'est encore un autre truc. En fait, le Covid, est-ce que ça a changé les comportements? Là, pareil, il faudrait demander à quelqu'un d'autre, mais moi, je ne peux que donner mon point de vue de citoyen qui habite à Paris et qui voit des choses. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a fait, on fait beaucoup plus de vélo. J'ai l'impression que entre avant le Covid et après le Covid, il y a quand même, je pense que la mairie de Paris a bien réussi à organiser ça. Il y a de plus en plus de vélos. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, quand on regarde le nombre de pistes cyclables qui ont popé un peu partout dans Paris, c'est là, c'est un bon exemple, tu vois, de cette alliance entre un comportement individuel vertueux qui est encouragé par une politique publique. C'est de plus en plus de gens veulent faire de vélo et par ailleurs, la mairie décide de mettre des voies pour les vélos qui ne soient pas des petites voies peintes sur le côté de la route et qui sont allègrement non respectées par plein de gens.
Ma dernière question, elle sera de manière plus globale sur cette notion d'impact carbone. Je la trouve très pertinente, évidemment, puisque ce qui nous a intéressés ici, c'est le réchauffement climatique, mais il y a quand même d'autres défis environnementaux et il y a un défi commensurable. Un défi fondamental qui est aussi celui de la biodiversité et des atteintes environnementales de façon générale. Du coup, est-ce que, peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour répondre à ça, mais déjà, est-ce que nos gestes individuels peuvent avoir aussi un effet sur ces autres défis-là? Est-ce que la mesure de l'impact carbone, elle a du sens en tant que telle prise isolément?
Alors, il faut effectivement bien se garder de n'avoir qu'un seul indicateur en tête. Ça, c'est l'un des grands problèmes de nos esprits rationnels. C'est dès qu'on a un indicateur qui marche bien, on veut le regarder lui et que lui. Le problème, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte d'effondrement ou de pré-effondrement généralisé, ou en tout cas typiquement, on a à la fois le problème climatique, mais on a aussi l'effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, on s'est effectivement essentiellement focalisé sur le climat. Alors moi encore plus, puisque chez Carbone 4, on a vraiment un focus jusqu'ici très climat, mais ça change d'ailleurs. Bon, je vais en reparler. Mais on parle assez peu historiquement de la question de la biodiversité, par exemple. Or, la biodiversité, c'est peut-être encore plus important, puisqu'on dépend au premier ordre de tout un tissu de relations avec le vivant, qui, si on l'enlève ou si on le détruit, on signe notre perte pure et simple, quoi. Donc en fait, effectivement, il ne faut surtout pas regarder uniquement le carbone. Il faut regarder d'autres indicateurs environnementaux, comme la biodiversité. Il y a de plus en plus d'indicateurs qui se montent là-dessus et pour essayer de mesurer des impacts sur la biodiv, que ce soit par les entreprises, par l'État, etc. Mais aussi, il faut essayer de sortir de la notion même d'indicateur quantitatif, je pense. Je pense qu'il y a aussi un côté qui est il faut réfléchir à une transition juste qui dépasse peut-être la simple question rationnelle qu'on peut se fixer. Donc évidemment, ça passe par des indicateurs, mais je pense qu'il faut aussi, parfois, en tout cas dans certains, sur certains aspects, sortir de la vision très ingénieure et calculatoire pour plutôt penser sensibilité avec le vivant et cohérence avec le vivant, quoi. Je sais pas si ça a du sens ou si c'est désirable ou pertinent, mais en tout cas, ouais, je trouve que on a un écueil assez fort à ne regarder que le carbone. C'est un piège assez fort. Évidemment, c'est essentiel, mais il faut bien sûr essayer d'ouvrir le champ d'étude à plein de choses.
Et du coup, toi, tu as ton avis sur l'impact de nos gestes individuels sur ces autres enjeux-là?
Pas trop, parce qu'il faudrait le regarder. Ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement lié, quoi. Il y a énormément de liens entre le carbone et la biodiversité. Typiquement, quand tu déforestes, tu déstockes du carbone, mais également tu portes atteinte à un certain nombre de tissus écosystémiques.
Sur l'alimentation, c'est flagrant parce que le premier impact, c'est probablement les produits phytosanitaires.
Exactement. Qui, en plus de ça, ne sont pas forcément très bien pour la capacité des sols à absorber du carbone. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'interconnexions qui s'agit de démêler et de regarder. Mais ce serait intéressant de créer une empreinte biodiversité de ces gestes individuels. Donc, pourquoi ne pas créer un nouvel indicateur?
On compte sur toi, César.
On verra.
En dernière question, je voudrais te poser la question des conseils à donner. Là, peut-être que nos auditeurs sont un peu assommés de par toutes ces informations. Ils savent qu'il faut faire quelque chose d'un point de vue individuel, mais que ça ne suffit pas. Donc, ce serait quoi ton conseil à donner, toi, pour changer les choses?
J'ai pas de réponse toute faite. Je pense que ça dépend de chacun et chacune. C'est bien de s'informer sans pour autant... En fait, je pense que forcément, on doit passer par une phase un peu de choc. Enfin, je ne sais pas si on peut faire l'économie de ce choc-là pour ensuite penser une action qui soit à la fois cohérente avec ce qu'on doit faire et radicale et heureuse, etc. En tout cas, pour garder, je pense qu'enfin moi en tout cas, j'essaie de ne pas me laisser abattre en me disant qu'il y a toujours matière à justement lutter sur plein de champs différents, que ce soit des champs individuels ou collectifs. Mais c'est un petit peu l'idée de cultiver un peu la joie et l'absurde, tu vois. C'est vraiment Camus, le monde est absurde. Il y a des objectifs net zéro partout qui veulent rien dire. Il y a des lois qui sont absolument pas à la hauteur. On a des plans climat nationaux qui, au mieux du mieux, c'est-à-dire quand on réussit à les suivre, ce qui n'est absolument pas le cas, même en France, nous amène à un réchauffement de plus 2,7 degrés en 2050 ou en 2100, pardon. Là, on se dit, merde, c'est... Mais je pense que l'absurde, c'est aussi se dire qu'on doit prendre acte du fait qu'on soit vraiment impuissant d'une certaine manière, même à l'échelle de l'humanité, par rapport au fait qu'on soit en train de dévier sur un caillou qui est notre seul vaisseau spatial et qui tourne autour d'une sorte de boule en fusion qui s'appelle le Soleil. Enfin, il y a vraiment des fois où on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je pense qu'une manière de se sauver, c'est l'action, c'est la lutte, quoi. Et peut-être qu'elle est vaine, mais en tout cas, comme dit Corinne Morel-Darleux dans Mieux vaut, je sais plus ce que c'est, à chaque fois le sens, c'est mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce ou l'inverse. En fait, au moins on aura tenté, quoi. C'est le refus de parvenir et le fait de se dire, bah, en fait, pour la beauté du geste, faisons-le, quoi.
Toi, tu arrives à être radical dans tes choix individuels ?
Bah, je sais pas si je peux moi-même me dire que j'ai réussi à cocher toutes les cases. Enfin, moi je suis salarié d'une société à but lucratif, donc on peut se dire, est-ce que ça c'est cohérent avec la notion de décroissance, est-ce que c'est cohérent avec la question de limite planétaire, etc. Donc ça, c'est vraiment des questions hyper ouvertes, mais j'essaye de moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est d'essayer de donner les bons ordres de grandeur et de faire des études pour montrer au grand public certains trucs. Typiquement, faire sa part, ça a été un exemple de ça, de dire aux gens, bah, en fait, vous avez un impact, vous, individuel, mais il ne faut surtout pas oublier de lutter collectivement pour essayer de, justement, ne plus raisonner en silo et en ayant une sorte de bonne conscience individuelle parce qu'on trie ses déchets, quoi.
Et comment lutter collectivement ?
Et lutter collectivement, bah, c'est, je sais pas, essayer d'agir au niveau politique, que ce soit hyper localement, dans des associations, dans, pourquoi pas, des partis politiques quand on a encore la foi en ces trucs-là. Ça peut être, comme je l'ai dit, bah, en tant que salarié, en tant que... Ça peut être aussi, en fait, désobéir. Tu vois, il y a aussi tout un pan auquel on n'a pas parlé, c'est explorer les lois, les voies un peu illicites, ou en tout cas à la limite du licite, c'est-à-dire, par exemple, la non-violence, l'action non-violente, typiquement d'Extinction Rébellion, qui... bon, bien sûr, des limites, parce que peut-être qu'on peut aussi se dire que parfois on a besoin de violence non légitime en certains trucs, mais je veux surtout pas ouvrir ce
la voie à la violence,
ou en tout cas cette question là ici, je suis absolument incapable de tenir ce discours de manière cohérente, mais en tout cas je pense que pour lutter collectivement il y a beaucoup de choses à faire. Bien malin sera celui qui donnera un truc exhaustif, quoi, mais je sais pas. En fait, je sais pas.
Il faut agir dans tous les cas.
Agir dans tous les cas, et je pense que vraiment les champs des possibles est absolument gigantesque et qu'il y a moyen de se marrer, en fait, en le faisant. Ça doit pas être vu comme des choses noires où on est obligé de le faire. Je pense qu'il y a vraiment de la joie à trouver dans plein de choses.
Ça donne en tout cas une vraie perspective. Enfin, c'est un changement de société radical qui peut être qu'une société meilleure dans une société aujourd'hui absurde.
Et en fait, ce qu'il y a de super intéressant avec ce combat, c'est que c'est un combat qui est un petit peu rationnellement cohérent. En fait, c'est ça aussi c'est un combat déjà hyper romantique. Enfin, c'est peut-être le dernier combat de l'humanité, d'essayer de sauvegarder la biosphère et nos conditions d'existence sur cette planète. Mais c'est aussi un truc qui est adoubé par la science. Enfin, après, on peut aussi avoir des discours hyper critiques sur qu'est-ce que la science, est-ce que c'est pas uniquement tout le temps situé, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, sur lesquels nous, et notamment les jeunes générations, on a quand même une légitimité assez forte par rapport aux générations précédentes qui n'ont pas forcément été mis au courant suffisamment tôt, ou qui ont peut-être voulu pas voir certaines choses. Mais en tout cas, ce qui est vachement bien, c'est qu'on a la légitimité et la cohérence pour nous. Et je pense qu'avec ça, c'est quand même deux armes hyper fortes pour y aller, quoi, et essayer de bouger les lignes.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, N'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.